Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 1 et 5. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 5. Le Christ vient à notre aide, au nom de Jésus. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais s'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés, et non seulement les nôtres, mais aussi ceux de tous les hommes. Si nous obéissons aux commandements de Dieu, alors nous savons que nous connaissions Dieu. Si quelqu'un affirme « je le connais », mais n'obéit pas ses commandements, c'est un menteur, et il n'y a pas de vérité en lui. Par contre, celui qui obéit à sa parole est un homme dont l'amour pour Dieu est véritablement parfait. Voici comment nous pouvons savoir que nous sommes unis à Dieu. Amen. Le paraclète. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot ? Le paraclète. Le terme clé dans ce texte, c'est surtout ce mot-là, le défenseur auprès du Père. Ce mot défenseur ne veut pas simplement dire juste un avocat, comme nous le savions, parce que ce dernier ne se limite seulement qu'à la justification qui rend possible, bien sûr, l'expiation des péchés. Ça, on le connaît déjà. Mais ça va plus loin, ce terme avocat, paraclète, auprès du Père. Avocat veut dire, dans le terme grec, exhorter, quelqu'un qui exhorte, quelqu'un qui console, quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui supplie le Père, quelqu'un qui nous aide par la suite, qui nous assiste, qui nous soutient, qui nous console, qui nous conseille, etc. Vous voyez, c'est plus large. Et si on se base rien qu'avec ces définitions, nous pouvons en déduire que le rôle du paraclète est plus large que nous l'avons imaginé. Il est là non seulement pour nous justifier, ce qui a été déjà fait à la croix, mais aussi il nous exhorte tous les jours, il nous encourage à venir vers Dieu pour en bénéficier de ce pardon qui a été fait une seule fois à la croix. Donc, cela signifie que même la volonté et l'envie de venir à Dieu ne vient pas de nous. Cette volonté, cette envie de venir vers Dieu pour obtenir le pardon vient de ce paraclète. C'est lui qui nous exhorte à aller vers Dieu. C'est lui qui ne nous laisse pas seuls, tranquilles dans notre coin et qui nous dit « Viens vers le Père pour que tu sois pardonné. » Il est aussi celui qui nous console et qui nous soutient. Pourquoi ? Pourquoi ce mot consolateur ? Est-ce qu'il y a une tristesse ? Est-ce qu'il y a une crainte ? Oui. Je vous assure, il n'y a pas plus de plus dur et difficile pour un être humain de croire que ses péchés sont pardonnés. C'est difficile à croire qu'on est pardonné. Il y a beaucoup de monde, même au niveau de la psychiatrie, au niveau de la psychologie, il y a des gens qui ont du mal à se pardonner eux-mêmes. Mais aussi, le plus dur, c'est les personnes qui ne croient pas au pardon que Dieu leur donne. Et ça les range de l'intérieur, ça les détruit. Et ça peut se manifester dans leur corps quand on voit quelqu'un qui est rongé de culpabilité. Il devient malade, stressé tout le temps et même au bord du burn-out. Ce n'est pas le péché qui pousse l'homme vers la perdition éternelle, mais c'est plutôt le refus de ce pardon qui est donné. Tu peux confesser ton péché. Tu peux dire, oui, j'ai péché, j'ai commis ceci et cela, mais si par la suite Dieu te dit, viens, je te pardonne, et que tu ne reçois pas ce pardon, ça revient au même. Je vous assure, il n'y a pas de plus facile que de culpabiliser, de condamner quelqu'un, puisque c'est la logique de la vie, c'est si évident. Mais ôter d'une personne la culpabilité n'est pas une mince affaire, parce que tout, je dis bien tout, ce qu'il y a autour de lui, et même en lui-même, devient le blocage dans la réception du pardon. La question qui se pose, Jésus est notre avocat, face à quoi? Face à qui? Et si nous tenons compte de tout ce qui a été dit dans la définition de ce mot paraclète, nous pouvons déduire qu'il nous défend d'abord devant Dieu, face à l'accusation du péché, mais aussi, qui est le plus dur, face à nous-mêmes. Le plus grand des accusateurs devant Dieu, c'est notre conscience. 1 Jean chapitre 3, verset 20, il est dit « À cela nous saurons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui, devant Dieu. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. » Alors c'est notre cœur qui nous condamne et non Dieu. Ça change complètement. Et là, nous touchons à un point, je dirais, très délicat. Le cœur qui nous condamne. Et alors, si nous revenons à ce qui a été dit tout à l'heure, on voit très bien la grande différence entre Dieu et notre cœur. Le cœur condamne. Le diable aussi, lui, il en profite. Ah, lui, c'est un profiteur. Il dit, ah, là, il y a une occasion, je vais encore l'enfoncer un peu plus. Donc, ce n'est pas le diable qui est le problème, c'est nous-mêmes. Et le diable profite de l'occasion. Mais, quelle est la place du paraclète, le défenseur? Lui, il ne nous condamne pas, mais il nous ouvre les yeux sur notre état de pécheresse. Il n'est pas d'accord avec ce que nous faisons, mais il nous ouvre les yeux, c'est différent. Jean chapitre 16, verset 8, il dit « Et quand il viendra, » il parle du Saint-Esprit qui est aussi le paraclète, « il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché. » Il ne condamne pas, mais il nous prouve. Il nous donne la conviction « Oui, je suis pécheur. » Par contre, la condamnation, c'est un jugement. Et là, il y a une grande nuance entre condamner et prouver ou confondre l'homme de ses péchés. Pour être plus précis, nous allons poser la question suivante. Comment le Seigneur opère-t-il alors? Ici, notre texte parle de commandement, de parole. Chez l'apôtre Jean, la parole se dresse en juge. Ce n'est pas Dieu qui nous juge, c'est la parole de Dieu qui se dresse en juge. Et là, nous avons l'habitude de limiter ce terme, quand on parle de juge, à la condamnation. Mais si vous avez suivi la lecture, le découpage de notre péricope a lié ce passage sur les commandements et la parole avec le paraclète. C'est-à-dire que Jésus, qui est notre paraclète, notre défenseur, notre consolateur, lui aussi, il est la parole qui nous juge. Et cela implique que c'est la parole qui nous jugera et non le Christ. Jean chapitre 12, verset 47-48. Jean chapitre 12, verset 47-48, il est dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, écoutez bien ce qu'il dit, moi je ne les juge pas. » Bizarre. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas. car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais par la suite, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a bien un juge. Et c'est la parole que j'ai dite qui le jugera au dernier jour. C'est la parole finalement qui nous juge et non le Christ. Alors si vous comparez ces versets dans l'évangile de Jean et celui de l'épître de Jean, ils sont similaires, quasiment pareils. Alors le jugement de la parole se fait comment? Se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a les jugements qui se font tous les jours. Souvent on croit que le jugement dernier, c'est le jour où il y aura un grand tribunal, Dieu sur son trône, alors le diable qui sera là comme, on va dire, l'accusateur, et Jésus comme avocat. Non, ça ne va pas se passer comme ça, ça c'est dans les films, ça. Mais les jugements qui se font tous les jours n'attendent pas le dernier jour. Le jugement se fait à chaque fois que tu es en contact avec la parole de Dieu, c'est là que Dieu juge à travers sa parole. Hébreux 4, chapitre 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée de deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. » Et la suite, « elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » La parole juge nos sentiments et même nos pensées. Avant même que nous allons réfléchir, elle capte déjà le péché. Et c'est ça, un juge. Ce n'est pas celui qui condamne, mais celui qui détecte à l'avance. C'est un peu comme un scanner qui nous dit, attention, là, il y a un danger. Et il te prévient. C'est là que se trouve la différence entre le paraclète, la parole de Dieu qui nous juge dans le sens qui nous prévient, qui nous signale, qui nous exhorte et qui nous dit « fais attention ». Voilà le jugement qui se fait tous les jours. Donc ici, dans un premier temps, le jugement est synonyme de discernement. C'est lui qui nous discerne, c'est lui qui nous scanne avec la parole de Dieu. Une analyse en profondeur et non une analyse superficielle. Ce n'est pas l'acte commis à l'extérieur qui est pris en compte, mais c'est surtout la source et l'origine du mal. Vous voyez, la parole de Dieu va très loin. Ce n'est pas juste comme une loi ou un décret qu'on sort dans la loi pour nous dire « voilà ce qu'il ne faut pas faire ». Voilà ce qu'il faut faire. Non, ici la loi, elle nous pénètre et nous prévient de ce qui va se passer après. Et ce n'est pas pour rien si notre credo et le credo juif touchent cet aspect-là dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc l'amour de Dieu est plus profond, ce n'est pas l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et le Christ aussi l'a dit à sa manière quand il disait, c'est ce qui sort de l'être humain qui le souille, car c'est du dedans du cœur des gens que sortent les raisonnements mauvais. Marc chapitre 7, verset 21. Or pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est tout de suite ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est notre réflexe. Ah, quand tu vois à l'extérieur, comment arranger les choses pour que cela puisse être plus présentable ou plus acceptable aux yeux de la société, aux yeux de mes frères et sœurs. Quand tous les critères sont présents, on dit, oui, là, il est bien. Mais ce que nous voyons à l'extérieur n'est que la manifestation du vrai problème à l'intérieur. Et je pense que le texte que nous avons aujourd'hui nous pousse à aller un peu plus en profondeur des choses et ne pas rester dans le superficiel. Puisqu'on est dans le monde où on vit, tout est le paraître, le superficiel. Et cela me fait rappeler la parole de l'Éternel à Samuel, lorsque le Seigneur lui a envoyé vers Jessé de choisir le nouveau roi d'Israël pour remplacer Saül. Voici ce qu'il a dit. Attention, Samuel. Pourtant, c'était le grand Samuel, le grand prophète d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui. Ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille. car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Même le grand Samuel était dans l'erreur. Alors telle est ma consolation, telle est notre assurance face à notre Seigneur, qui est notre paraclète. Il te connaît au plus profond de toi-même. Tu peux donner une autre image de toi à l'extérieur, à ta famille, à tes connaissances, à tes voisins, à tes collègues, mais il te connaît. Tu ne peux pas te défiler devant lui. Ta façon d'agir, ton argumentation, ta motivation, tout ce qui te traverse à l'intérieur, il te connaît. Ça ne fait pas peur. Au contraire, ça nous assure. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui me connaît. Il me connaît en profondeur, il me connaît, il connaît mes intentions, il connaît mes ressentis les plus complexes et les plus difficiles à comprendre. Même les psychologues les plus experts ne pourront jamais détecter cela. C'est pourquoi il est mon paraclète, il est mon défenseur, il est mon consolateur, il est mon assistant, et ainsi de suite. Et pour terminer, je reprends ce qui est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. Ne prête pas attention à son apparence et à son taille, car je l'ai rejeté. Non, pardon, dans Samuel. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit, mais ce que Dieu voit dans le cœur. Oui, il y a une connaissance mutuelle très profonde que personne ne pourrait le comprendre ni évaluer. C'est une affaire entre toi et le Seigneur. Et c'est ça qui est le plus important, c'est une vie personnelle que tu as avec le Christ. Ça ne regarde personne, c'est entre toi et ton maître. À toi de confier en lui. Ne le mens pas, dis-lui tout, car d'ailleurs il te connaît déjà. Amen.